Chapitre 3 Conclusion. Le lendemain matin, le pèlerin s'occupa de l'affaire qui l'amenait à Rome et que les circonstances rapportées au dernier chapitre avaient retardé. On pouvait le voir alors cherchant activement une personne dans les environs de l'arcade de Janus, au forum. Enfin, il trouva l'homme en question et l'étranger se dirigea en sa compagnie vers un sale petit bureau situé sous le Capitole, sur la montée appelée la chaire Asili. On alla chercher des livres poudreux et ils les examinèrent, colonne par colonne, jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé la date du 8e consulat de Dioclétien Augustus et du 7e consulat de Maximien Hercule. Là, diverses indications renvoyaient à d'autres documents. On retrouva une liasse de parchemins moisis à cette même date. L'on déroula celui qui portait le numéro correspondant au premier livre et on l'examina. Le résultat des investigations parut satisfaire également les deux parties. « C'est la première fois de ma vie, dit le propriétaire du bureau, que je rencontre un débiteur qui, après s'être enfui, revient au bout de 15 ans pour s'inquiéter de ses dettes. Vous êtes chrétien, je pense, Seigneur. » « Oui, par la miséricorde de Dieu. » Je le pensais. « Bonjour, Seigneur. Je serai heureux de traiter avec vous à un prix aussi raisonnable que mon père Éphraïm, qui est maintenant avec Abraham. » « Quel grand sot que cet homme ! Je le dis pour sa peine !» continua le Juif quand l'étranger se fut éloigné. D'un pas décidé et d'un air moins triste qu'auparavant, l'étranger se rendit droit à la villa sur la voie Nomentane. Après avoir fait ses dévotions à la crypte, avec un cœur plus léger, il s'adressa cette fois au fossard comme s'il n'avait jamais été séparé. « Torquatus, lui dit-il, puis-je me présenter devant la noble Fabiola ?»« Certainement, répondit l'autre, venez par ici. » Pendant que les deux hommes cheminaient ensemble, ils ne firent aucune allusion à leurs anciennes relations, ni aux événements qui s'étaient accomplis dans leur vie depuis leur dernière entrevue. Ils comprenaient instinctivement, tous deux, que leur passé devait être effacé devant les hommes, comme il avait été pardonné devant Dieu. Fabiola n'avait pas quitté sa villa depuis 2 jours, espérant le retour de l'étranger. Elle était assise dans le jardin, à côté de la fontaine, quand Torquatus, l'indiquant du doigt à son compagnon, se retira. Elle se leva à l'approche du visiteur si impatiemment attendu, et une émotion inexprimable l'anima tout entière quand elle se trouva en sa présence. « Madame, dit-il d'une voix à la fois humble et remplie de simplicité, je n'aurais jamais osé me présenter devant vous si un devoir de justice et de gratitude ne m'y avait contraint. « Orontius, répliqua-t-elle, je pense que c'est sous ce nom que je dois vous parler. » Il fit un signe d'assentiment. Vous n'avez pas d'autre obligation envers moi que la charité que le grand apôtre nous recommande les uns envers les autres. Je sais que vous pensez ainsi. C'est pourquoi, indigne que je suis, je n'aurais pas osé m'introduire près de vous sans un autre motif que celui d'un strict devoir. Je sais quelle reconnaissance je vous dois pour la bonté et l'affection que vous avez témoignée à un être qui m'est maintenant plus cher qu'une sœur peut l'être en ce monde, et je n'ignore pas que vous avez rempli envers elle les devoirs de l'amour fraternel si négligés par moi. C'est ainsi que vous me l'avez envoyé pour devenir l'ange de ma vie, répondit Fabiola. Souvenez-vous, Orontius, que Joseph fut vendu par ses frères afin seulement qu'il pût sauver sa race tout entière. Vous êtes vraiment trop bonne envers un homme indigne de votre indulgence, reprit le pèlerin. Je ne vous remercie donc pas de vos bontés pour une personne qui vous a récompensé si richement. Mais ce matin seulement, j'ai appris quelle miséricorde vous aviez montrée à un être qui n'y avait aucun droit. Je ne vous comprends pas, interrompit Fabiola. Alors je m'expliquerai plus clairement, dit Orontius. Pendant de nombreuses années, j'ai fait partie d'une de ces communautés qui s'élèvent maintenant en Palestine, où les hommes vivent séparés du monde, au milieu du désert, et passent leur journée et même leur nuit en 3 occupations, à chanter les louanges de Dieu, à la contemplation et au travail des mains. De sévères expiations pour nos fautes passées, le jeûne, les larmes, la prière, forment les devoirs principaux de notre vie pénitente. Avez-vous jamais entendu parler de ces réunions d'hommes ?
La renommée des Paul et des Antoine remplit l'Occident comme l'Orient, répliqua la patricienne.
C'est sous le plus illustre disciple de ce dernier que j'ai vécu, animé par son grand exemple, soutenu par ses consolations. Mais une pensée me troublait et m'empêchait de croire au pardon, même après ces longues années d'expiation. Avant de quitter Rome, j'avais contracté une lourde dette qui devait s'être accumulée encore par le taux effrayant des intérêts auxquels j'avais souscrit. Cependant, je l'avais contracté de propos délibérés. Je devais m'acquitter. Et comment arriver à ce but ? J'étais un pauvre cénobite, vivant seulement du produit de quelques nattes en feuilles de palmier que je fabriquais et des herbes rabougries et maigres qui poussaient dans le sable. Il ne me restait qu'un seul moyen, me livrer à mon créancier comme esclave, travailler pour lui, endurer ses coups et ses reproches méprisants, ou être vendu par lui, car je suis encore fort. Dans les deux cas, j'aurais eu pour me soutenir et me fortifier l'exemple de notre Sauveur. J'aurais vendu tout ce que je possédais, moi-même. Ce matin, je me suis rendu au forum, où j'ai trouvé le fils de mon créancier. Nous avons examiné ses comptes, et j'ai vu que vous aviez payé ma dette tout entière. C'est pourquoi, noble Fabiola, je deviens votre esclave au lieu d'appartenir aux Juifs. » Et il s'agenouilla humblement à ses pieds.
« Levez-vous, levez-vous !» dit Fabiola, détournant ses yeux remplis de larmes. « Vous n'êtes pas mon esclave, mais mon frère bien-aimé devant notre Sauveur à tous les deux. »
Puis, le faisant asseoir à ses côtés, elle ajouta
« Orontius, j'ai une grande faveur à vous demander. Dites-moi comment vous avez été amené à embrasser cette vie que vous avez si généreusement acceptée. »
« Je vous obéirai aussi brièvement que possible. Pendant une nuit malheureuse, je m'enfuis de Rome, accompagné d'un homme. » Ici, sa voix s'altéra.
« Je sais de qui vous voulez parler, c'est de Rotas, » interrompit Fabiola.
C'est de lui qu'il s'agit, du mauvais génie de notre maison, de l'auteur de toutes mes souffrances et de celles de ma sœur. Nous frétâmes à grands frais un navire à Brundusium, d'où nous fîmes voile pour l'île de Chypre. Nous essayâmes le commerce et différentes spéculations. Mais tout échoua. Il y avait une malédiction manifeste attachée à toutes nos entreprises. Nos ressources s'épuisèrent et nous fûmes obligés de chercher à vivre dans un autre pays. Nous traversâmes la Palestine et nous restâmes quelque temps à Gaza. La misère nous atteignit bientôt. Chacun nous fuyait sans que nous puissions en deviner la raison. Mais ma conscience me disait que c'était la marque de Caïn qui souillait mon front et qui m'attirait la malédiction divine. Orontius s'arrêta en pleurant, puis il continua. À la fin, quand tout fut épuisé, il ne nous resta plus que quelques bijoux d'un grand prix dont je ne savais pourquoi, Eurotas ne voulait pas se séparer. Il m'ordonna de remplir l'odieuse charge de dénonciateur des chrétiens, car une persécution violente éclatait. Pour la première fois de ma vie, je me révoltai contre ses ordres et je refusai d'obéir. Un jour, il me demanda de venir me promener au-delà des portes de la ville. Nous marchâmes longtemps et nous arrivâmes enfin à un endroit délicieux au milieu du désert. C'était une étroite vallée couverte de verdure et ombragée de palmiers. Un petit ruisseau clair et murmurant la traversait en s'échappant d'une source située dans le roc, sur le sommet de la vallée. Dans ce roc, il y avait des grottes et des cavernes. Mais elles paraissaient inhabitées et on y entendait d'autres bruits que le bruissement de l'eau limpide. Nous nous assîmes pour nous reposer. Alors Eurotas m'adressa de sanglants reproches. « Le temps est venu, me dit-il. Il faut que nous accomplissions la redoutable résolution que nous avons prise de ne pas survivre à la ruine de notre famille. C'est ici que nous devons mourir. Les bêtes sauvages viendront manger nos restes et personne ne connaîtra la fin des derniers représentants d'une famille tombée. » En disant ces mots, il tira de dessous sa tunique deux petites fioles d'inégale grandeur. Il me tendit la plus grande, tandis qu'il avalait le contenu de la plus petite. Je refusais de le prendre et lui reprochais même la différence des doses que contenaient les deux bouteilles,
mais il répliqua qu'il était vieux et que j'étais jeune, et que les doses de poison devaient être proportionnées à nos forces respectives. Je refusai encore, car je ne voulais pas mourir. Mais une sorte de fureur satanique parut le dominer. J'étais assis. Il m'étreignit avec la force d'un géant, et me renversant, s'écrie que nous devions périr ensemble. Il me verse de force le contenu de la fiole dans la gorge, sans me faire grâce d'une goutte. En un instant, je perdis connaissance et je restai ainsi jusqu'à ce que je m'éveillai dans une caverne, demandant à boire d'une voix bien faible. Un vieillard vénérable, avec une barbe blanche, approcha de mes lèvres brûlantes un bol de bois plein d'eau. « Où est Eurotas ? » demandai-je. « Est-ce de votre compagnon que vous parlez ? » répondit le vieux moine. « Oui, » repris-je, « il est mort. » Je ne sais pas par quelle fatalité cet événement est arrivé, mais je bénis Dieu de tout mon cœur de m'avoir épargné. Ce vénérable moine était Hilarion, qui, né à Gaza, après avoir passé de nombreuses années en Égypte avec saint Antoine, revenait cette année-là même dans son pays pour y jeter les fondements des établissements des ermites et des cénobites et avait déjà réuni plusieurs disciples. Ils vivaient dans les cavernes du voisinage, prenaient leur nourriture à l'ombre des palmiers et détrempaient avec l'eau de la fontaine leurs aliments desséchés. Leur bonté envers moi, leur douce piété, leur sainte vie me touchèrent lorsque je me rétablis. Je vis la religion que j'avais persécutée sous sa forme sublime. Je me rappelai bientôt les instructions de ma mère bien-aimée et l'exemple de ma sœur. Vaincu par la grâce, j'avouai mes fautes aux pieds du ministre de Dieu et je reçus le baptême la veille de Pâques. Alors nous sommes doublement frères, enfants jumeaux de l'Église, car je naquis ce jour-là même à la vie éternelle. Mais à présent, que comptez-vous faire ? Je repartirai ce soir. J'ai accompli les deux buts de mon voyage. Le premier était d'acquitter ma dette, le second de déposer une offrande sur le tombeau d'Agnès. Vous vous rappellerez, ajouta-t-il en souriant, que votre bon père me trompa sans intention en me faisant croire que la sainte enfant enviait les bijoux dont j'étais ornée. Insensé que j'étais, mais après ma conversion, je résolus de lui offrir le plus beau de ceux qui me restaient d'Eurotas et je le lui ai apporté. Mais avez-vous des ressources suffisantes pour achever votre voyage ? Demanda timidement la noble dame. Mes ressources sont abondantes. Elles sont placées dans la charité des fidèles. J'ai des lettres de l'évêque de Gaza qui m'obtiendront partout la nourriture et le logement. Mais j'accepterai volontiers de vous, au nom de notre commune foi, une coupe remplie d'eau et un morceau de pain. Ils se levèrent et approchaient de la maison quand une femme se précipita comme une folle à travers les arbustes et vint tomber à leurs pieds en criant « Oh, sauvez-moi, ma chère maîtresse, sauvez-moi ! Il me poursuit pour me tuer !» Dans cette pauvre créature, Fabiola reconnut son ancienne esclave Jubala. Mais ses cheveux grisonnants étaient répandus en désordre et tout son extérieur trahissait la misère la plus grande. La noble dame lui demanda ce qu'elle voulait dire. « Mon mari est depuis longtemps dur et cruel envers moi, mais aujourd'hui il est plus brutal que de coutume, » répliqua-t-elle. « Oh, sauvez-moi de lui !»« Vous êtes en sûreté ici, » répondit Fabiola, « mais je crois voir, Jubala, que vous êtes loin d'être heureuse. Je ne vous ai pas vue depuis bien longtemps. »« Non, ma chère maîtresse, pourquoi serais-je venue vous raconter toutes mes misères ? Oh, pourquoi ai-je jamais quitté votre maison où j'aurais été si heureuse ? J'eusse appris à votre exemple, avec Gréca et la pauvre vieille Frosine, qui est morte maintenant, à devenir meilleure, et comme elle, j'aurais embrassé le christianisme. » « Quoi ? Vous avez réellement pensé à cela, Jubala ? Depuis longtemps j'y pense, madame, dans des chagrins et mes remords. J'ai vu que les chrétiens étaient heureux, ceux-là même qui ont été aussi méchants que moi. J'ai donné cela à entendre ce matin à mon mari, c'est pour cela qu'il m'a battue en me menaçant de me tuer. Mais Dieu merci, une amie a pu m'enseigner les doctrines du christianisme. » « Quand donc ces mauvais traitements ont-ils commencé, Jubala ? » demanda Orontius, qui avait entendu parler d'elle par son oncle. Avec notre mariage, répondit-elle, j'eus le malheur de lui parler des propositions qui m'avaient été faites auparavant par un sombre étranger nommé Eurotas. Oh, c'était lui aussi un méchant homme, un homme dont les passions étaient sinistres et sans scrupules. Son souvenir est le plus cruel de mes remords.
« Pourquoi donc ?» demanda Orontius avec une curiosité toujours croissante.
Quand il fut au moment de quitter Rome, il me demanda de préparer pour lui deux poisons narcotiques, l'un pour un ennemi dont il devait s'emparer, et celui-là était mortel, un autre qui se destinait et causerait un simple évanouissement de quelques heures. Lorsqu'il vint les chercher, j'allais lui expliquer que, contrairement aux apparences, la plus petite fiole contenait le poison le plus subtil et le plus concentré, et que j'avais mis dans la plus grande le simple narcotique à la dose la plus faible. Mais mon mari entra à ce moment et, dans un violent accès de jalousie, me lança hors de la chambre. Je crains que le sinistre étranger n'ait commis une méprise et qu'une mort involontaire ne l'ait suivi.
Fabiola et Orontius se regardèrent en silence et admirèrent les vues miséricordieuses de la Providence. Un gémissement de la pauvre femme les tira de la réflexion. Ils furent saisis d'horreur en apercevant une flèche qui tremblait dans sa poitrine. Pendant que Fabiola relevait la malheureuse dans ses bras, Orontius aperçut à travers les arbres une figure noire qui grimaçait hideusement. Puis, un instant après, il vit un numide s'enfuyant sur son cheval, son arc tendu sur son épaule à la manière des Parthes, prêt à transpercer ceux qui voudraient le poursuivre. La flèche avait passé inaperçue entre Orontius et la patricienne. « Jubala, demanda Fabiola, désires-tu mourir chrétiennement ?»«
Très ardemment, répliqua-t-elle.
Crois-tu en un seul Dieu en trois personnes ?»
« Je crois fermement à tout ce que l'Église enseigne. »«
Et en Jésus-Christ, qui est né et qui est mort pour nos péchés ?»«
Oui, je crois toutes ces vérités, » répondit-elle plus faiblement.
« Hâtez-vous, hâtez-vous, Orontius !» cria Fabiola en indiquant du geste la fontaine. Il atteignit la fontaine, remplit d'eau ses deux mains, et revenant précipitamment, renversa leur contenu sur la tête de la pauvre Africaine, en prononçant les paroles du baptême, et au moment où elle expira, l'eau de la régénération se mêla au sang de l'expiation. Après cette scène à la fois triste et consolante, ils entrèrent dans la maison et donnèrent à Torquatus les instructions nécessaires pour les funérailles de la nouvelle convertie, qui avait reçu à la fois le baptême du sang et le baptême de l'eau. Orontius fut frappé de la simple propreté de la villa, qui contrastait si complètement avec l'ancienne splendeur de la résidence de Fabiola. Mais soudain, son attention se concentra dans une petite salle intérieure, sur une sorte de châsse ou de coffret splendide orné de pierreries. Un voile brodé le recouvrait et ne laissait voir que les contours du coffret. S'approchant, il lut l'inscription suivante. « Le sang de la bienheureuse Myriam répandu par des mains cruelles. » Orontius devint d'une pâleur mortelle, puis rougit bientôt et chancela. Fabiola le vit et, allant vers lui avec bonté et franchise, elle posa sa main sur le bras du pèlerin et lui dit doucement « Orontius, ce qui est renfermé dans ce coffret doit nous faire rougir profondément tous deux, sans nous désespérer cependant. » En disant ces paroles, elle tira le rideau de pourpre et Orontius aperçut sur un plat de cristal l'écharpe brodée, si étroitement liée à l'histoire de sa sœur et sa propre histoire. Sur cette écharpe reposaient deux armes aiguës dont les extrémités étaient rougies de sang. Dans une de ces armes, il reconnut sa dague, l'autre lui parut un de ces instruments de vengeance féminine avec lesquels les dames païennes châtiaient leurs esclaves.
« Nous avons tous deux, dit Fabiola, infligé une blessure et versé le sang à celle que nous honorons maintenant comme une sœur dans le ciel. Mais pour ma part, c'est du jour où je commis cette faute et où je mis ainsi la vertu de notre bienheureuse Myriam à l'épreuve que je fais dater l'aurore de la grâce de mon âme. Qu'en pensez-vous, Orontius ?»«
Et moi, reprit-il, c'est de l'instant où je l'eus si indignement maltraité et où je la forçais à montrer tant d'héroïsme chrétien que je sentis la main de Dieu sur moi,
cette main qui m'a conduite au repentir et au pardon. » C'est toujours ainsi, conclut Fabiola. L'exemple de notre Seigneur a fait des martyrs, et l'exemple des martyrs nous conduit vers lui. Leur sang adoucit nos cœurs. C'est celui du Christ qui purifie nos âmes. Leur sang implore la miséricorde divine, le sang du Christ nous l'obtient. Puisse l'Église, dans ses jours de paix et de victoire, n'oublier jamais ce qu'elle doit à l'ère des martyrs. Nous leur devons notre vie spirituelle. Puisse un grand nombre de ceux qui liront le récit de leur constance dans les douleurs les plus cruelles obtenir de leur mérite la miséricorde et la grâce d'en haut. Ils s'agenouillèrent et prièrent longtemps en silence devant la châsse. Puis ils se séparèrent pour ne plus se revoir en ce monde. Après quelques années passées par Orontius dans la ferveur d'une vie pénitente, un tertre de gazon verdoyant, ombragé de palmiers, indiqua dans l'étroite petite vallée l'endroit où il dormait du sommeil du juste. Fabiola vécut longtemps d'une vie de sainteté et de charité, puis elle alla reposer en paix près de ses deux amies, Agnès et Myriam.